Son récit ouvrait les portes de la haute société, à l'opposé de la très grande majorité de l'assistance. On minaude, on jacasse, on parlote. Rien de sérieux n'est retenu, et tout ce qui est futile est exalté. La duchesse peut glisser « Je suis une pauvre ignorante », comme elle dira plus tard n'être qu'une paysanne, n'ayant que l'éducation des filles de province, habitant dans un humble trou. De la même façon, son mari se proclame pézouille, sans faire rire les poules. Et à propos d'un aristocrate, je me sens plus rapprochée, plus consanguine de mon cocher, de mes chevaux, que de cet homme qui se réfère tout le temps à ce qu'on aurait pensé sous Philippe le Hardi ou sous Louis le Gros. On s'y exprime avec emphase, on ne dit pas « nous savons gré à », pour ne pas parler de ceux qui disent « sommes gré ». Mais nous savons un gré infini à. Et les hôtes titrés y parlent généalogie, et des futaies et des clochers gothiques dans leur nom. À vous donner le tournis, donnant au nom de cousine et de cousin, une géométrie fort variable. D'évidence, allez regarder, yeux écarquillés, à essayer de comprendre l'incompréhensible. Les auditeurs ne pouvaient grimper dans l'arbre évoqué dans tel échange, le prince d'Agrigante ayant demandé pourquoi le prince X avait dit, en parlant du duc d'Aumale, mon oncle, Monsieur de Guermantes répondit « Parce que le frère de sa mère, le duc de Wurtemberg, avait épousé une fille de Louis-Philippe. » Le héros est attendu le même soir à un autre rendez-vous avec le baron de Charlus. Son récit serait pour demain. Malgré le précipice entre le texte et les spectateurs, ce fut un triomphe et la salle se leva pour applaudir de longues minutes, par de longues salves arithmétiques ou par de courts et répétés battements de mains en mesure. Dimanche après-midi, un retour chez l'énigmatique baron, reçu par Charlus en robe de chambre chinoise. Le héros est accueilli par des reproches furieux, suivis de propos mielleux. Au passage, le baron passe deux doigts sur le visage de son hôte, comme ceux d'un coiffeur, et lui touche l'épaule, paternellement. Le vieux baron dit vouloir s'abstenir de leur accompagner, attendu qui est désireux de ne plus le revoir. C'est à n'y rien comprendre, d'autant qu'il se ravise et le ramène chez lui. Deux mois après cette soirée, le jeune mondain reçoit une invitation d'une guermante, mais cette fois la princesse, pas la duchesse. L'assistance, entre eux, fascination et lassitude, a pris à l'occasion, qu'héraldiquement le titre de prince n'est pas supérieur à celui de duc. Mais rares étaient ceux qui auraient pu tirer profit de cette info. Quant au héros, toujours doutant de tout, il se demande si la carte n'est pas celle d'un mystificateur. Un peu harassé par le verbe de Proust sur cette aristocratie d'un monde englouti, le public s'agitait. Fabrice sentit tout de suite ses mouvements d'impatience, ses jambes qui se croisaient et se décroisaient, ses fessiers qui recherchaient une assise plus confortable, ses jambes qui bougeaient frénétiquement. Pire, des murmures commençaient à sourdre. Il aurait bien été tenté de s'interrompre pour dire « Je vous comprends, vous ne pouvez être perpétuellement attentif. Ce que nous vivons ensemble n'est pas une performance que pour moi. Vous aussi, vous avez votre part dans son accomplissement. J'ai grand besoin que vous restiez avec moi. » Et il n'eut pas d'autre ressource que de hausser la voix d'un demi-ton, de regarder l'auditeur avec une fixité sévère, le temps que le silence se réinstalla. Il y tenait d'autant plus que ceux qui suivaient allaient, il en était sûr, relever l'attention. La situation est limpide. Le héros vient voir le duc et la duchesse, à peine revenu de Cannes à Paris, pour se rassurer sur l'authenticité de l'invitation. Mais eux ont un supplément au programme. Une fête costumée à laquelle le duc tient particulièrement. Or voilà, tandis qu'ils se préparent, qu'on leur apprend qu'un cousin germain, Amanien d'Osmond, dit Mama, est au plus mal. Proust va détailler toute la tactique du duc pour ne pas avoir à rater sa fête à laquelle il devrait renoncer si ce bon parent venait à trépasser. Cela s'étale sur une dizaine de pages. Mais resserrons. À la première information, le duc porte un diagnostic favorable. La deuxième le chiffonne davantage car elle est donnée par des parents plus éloignés que lui et qui renoncent au dîner par décence. Il y voit une espèce de blâme indirect de sa conduite. Il établit alors un plan. Écoutons le héros. Comme il croyait, avec raison, son cousin mourant, il tenait à faire prendre des nouvelles avant la mort, c'est-à-dire avant le deuil forcé. Une fois couvert par la certitude officielle qu'Amania était encore vivant, il ficherait le camp à son dîner, à la soirée du prince, à la redoute où il serait en Louis XI et où il avait le plus piquant rendez-vous avec une nouvelle maîtresse et ne ferait plus attendre de nouvelles avant le lendemain, quand les plaisirs seraient finis. Alors, on prendrait le deuil s'il avait trépassé dans la soirée. Plus tard, un laquais s'enquiert de savoir s'il doit prendre des nouvelles du marquis d'Osmond, ce qui rend le duc furieux. « Mais jamais de la vie! Rien avant demain matin! Je ne veux même pas que vous restiez ici ce soir. Sortez! Allez où vous voudrez, faites la noce, découchez, mais je ne veux pas de vous ici avant demain matin. » Et si un autre fait savoir qu'on s'attend d'un moment à l'autre à ce que monsieur le marquis ne passe, le duc s'écrie « Ah ! Il est vivant ! On s'attend, Satan vous-même ! Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir !» nous dit le duc d'un air joyeux. On me le peignait déjà comme mort et enterré. Dans 8 jours, il sera plus gaillard que moi. Et de conclure, superbe. On en prend même trop de ces nouvelles. Cela le fatigue. Il faut le laisser souffler, on le tue cet homme, en le voyant tout le temps chez lui. Cette fin de chapitre et de session livra encore 2 mots de Swann. Le premier est cruel. Au duc qui lui demande à qui attribuer un tableau, il répond à la malveillance. Le second est tragique. La duchesse le questionnant sur ce qui l'empêcherait de venir avec elle l'année suivante en Italie. Il lâche. Mais ma chère amie, c'est que je serais mort depuis plusieurs mois. La lassitude avait disparu. Le public avait adoré la prouesse, l'exploit de Fabrice. Et puis il fallait marquer l'épilogue d'une semaine de Proust en banlieue. Le récitant fut acclamé tel un acrobate après une voltige jamais tentée. Fabrice avait toutes les raisons d'être comblé. Il ne lui restait que 408 120 mots à livrer. Mais qu'il l'eût croisé au lendemain de sa semaine banlieusarde, marchant incognito place Vendôme devant l'hôtel Ritz, l'aurait vu pleurer.